Bonjour, ce matin je vous propose de lire un passage dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de le lire, quelques éléments de contexte. L'Apocalypse de Jean, le dernier livre dans notre Bible, appartient à un genre littéraire spécifique que nous connaissons en fait peu actuellement, nous n'avons pas vraiment d'exemple contemporain, mais qui était très bien connu au moment de son écriture. Il y a de nombreux exemples de littérature apocalyptique autour du 1er siècle. L'Apocalypse de Jean nous semble alors être la version de référence, la version normale de ce qu'est une apocalypse, alors qu'elle est en fait un cas très particulier. Et sans doute, lors de sa réception au 1er siècle, le livre était plutôt mieux compris que par nous maintenant. Le genre littéraire des apocalypses est défini ainsi. Un cadre narratif dans lequel une révélation est transmise par un être supraterrestre à un récipiendaire humain. Elle concerne une réalité transcendante, à la fois sur le plan temporel, dans la mesure où le salut eschatologique est en ligne de mire, et sur le plan spatial, dans la mesure où l'avènement d'un autre monde supranaturel est annoncé. Ça veut dire qu'une apocalypse annonce la fin des temps, elle annonce un autre monde par l'intervention d'une action divine. Les apocalypses recourent au langage symbolique et crypté pour désigner les réalités qu'elles visent. Le langage symbolique est codé, donc il est compréhensible par ceux qui ont la clé du code. Il s'agit de faire passer des messages à sa propre communauté dans un contexte politique délicat pour elle, donc évidemment sans dénonciation nominative brutale. Le genre apocalyptique a pour but d'annoncer que Dieu interviendra. C'est une assurance qui redonne courage dans des situations difficiles comme l'exil d'Israël, par exemple. Nous connaissons bien un autre genre de la Bible qui annonce des interventions de Dieu, c'est la prophétie. Chronologiquement, on note que l'apocalyptique prend le relais de la prophétie à une époque où le peuple d'Israël, sous tutelle étrangère, n'est plus maître de son destin. Le prophète venait rappeler les principes de la justice divine pour remettre en question le fonctionnement d'une société qui était censée être théocratique. Et le prophète en appelle à un retour à ses valeurs et donc à un changement de cette société. Une société dans laquelle, avant l'exil, le peuple de Dieu avait son mot à dire sur son fonctionnement. Le prophète agissait au nom d'un Dieu toujours prêt à pardonner et toujours prêt à revenir sur sa décision de sanctionner les dérives qu'il chargeait son envoyé de dénoncer. L'apocalypticien, dans le genre apocalyptique en général, et c'est un peu différent avec Jean, œuvre dans un autre cadre. Il est animé par une conception beaucoup plus pessimiste du monde. Pour lui, notre monde n'est plus réformable et seule une transformation radicale peut rétablir l'ordre divin. Il annonce alors une période à venir où la réalité transcendante viendra se substituer à l'ordre présent des choses. L'horizon de son espérance est généralement très rapproché. La fin des temps, le renversement final eschatologique est pour bientôt, quelles qu'en soient les modalités. Voilà pour une approche du genre apocalyptique. Quant à l'Apocalypse de Jean, elle annonce que le renversement eschatologique, le moment qui marque la fin des temps, s'est déjà réalisé. C'est la venue de Jésus-Christ sur terre, sa vie, sa mort et sa résurrection. L'Apocalypse de Jean reprend les éléments classiques de son genre, le cadre narratif, une révélation transmise du ciel vers la terre à un récipiendaire qui est Jean, une réalité transcendante pour un salut final et l'annonce d'un autre monde. Une spécificité de ce livre est qu'il n'est pas seulement apocalyptique, mais il est aussi prophétique, dans le sens de dénoncer des injustices et rappeler des principes de justice, annoncer que Dieu est prêt à pardonner. Et donc l'autre élément spécifique de l'Apocalypse, c'est que l'élément déclencheur de la fin est déjà arrivé en la personne de Jésus-Christ. Alors bien sûr, c'est compliqué à comprendre, à nous représenter, parce que nous sommes depuis 2000 ans dans cette période étrange où certaines choses sont déjà réalisées et d'autres pas encore. Le texte de ce matin, Apocalypse 7, versets 9 à 17, est un exemple de ceci. Jean nous y raconte, entre autres, que l'Église est un espace particulier où nous vivons des choses déjà réalisées. Je lis le texte de Apocalypse 7. « Après cela, je regardais ces gens qui parlent, et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte. « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Dans ce passage, il y a un grand nombre de références à l'Ancien Testament. C'est important parce que ces références montrent l'ancrage de l'auteur dans les écrits de l'Ancien Testament. Il peut en utiliser les images pour faire passer son message. Il y a une continuité entre ses écrits et le sien. Les images font partie du code symbolique et l'Ancien Testament fait partie de la clé de décodage, bien que notre texte ne soit pas de loin le plus codé de l'Apocalypse. Le thème des nations se retrouve beaucoup dans les psaumes, par exemple psaume 96, verset 7, le dialogue de questions-réponses quand l'ancien demande à Jean « Qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» et Jean répond « Mon Seigneur, tu le sais. » Ça reprend un parallèle de Ézéchiel 37, verset 3. Un temps de détresse, de tribulation est évoqué dans Daniel 12 et dans Marc 13. Le lavage des vêtements dans le sang a des échos dans Genèse 49, la bénédiction prophétique pour Judas qui lavera son vêtement dans le vin, et Exode 19, verset 10 à 14, les instructions pour le peuple de laver ses vêtements avant que Dieu ne descende sur le mont Sinaï. Ézéchiel 37 annonce que la demeure de Dieu sera auprès de son peuple. L'agneau berger de son peuple fait écho à l'image du Dieu berger en plusieurs endroits, dont Ézéchiel 34, le psaume 23, Ésaïe 49. Et la référence des larmes a un écho dans Jérémie 31, verset 16. Apocalypse 7, versets 9 à 17, fait partie du chapitre 7 de l'Apocalypse, qui est vu par les commentateurs comme une interlude à tonalité liturgique. Donc c'est une interlude, une pause dans les récits des sept sceaux ouverts les uns après les autres, des sept trompettes, des sept coupes, si vous reprenez dans l'Apocalypse. Et au milieu de ces récits se trouve ce chapitre 7 qui est comme une pause dans le déroulement de l'histoire, avec un grand H. Et cette pause, cette bulle, a un aspect cultuel fort. Elle parle d'un culte rendu à Dieu, d'une manière de célébrer Dieu et l'agneau qui est le Christ. Le texte, quand il parle de ce que fait la foule immense avec les anges qui adorent Dieu et l'agneau, donne à voir une manière de vivre pour nous actuellement, au quotidien, si on le lit dans une tonalité liturgique. C'est-à-dire qu'à cette adoration qui existe au-delà de notre monde visible, nous nous joignons lors des temps de culte, par exemple, par la liturgie du culte, qui est un point de communion entre deux mondes, entre les deux mondes, notre monde actuel et celui qui est à venir. Comme les membres des sept églises qui reçoivent les lettres dans Apocalypse 2 et 3, le lecteur de ce texte est encouragé à comprendre qu'il a déjà reçu et qu'il reçoit au quotidien, en germe, l'accomplissement des promesses de la vie nouvelle. Le passage comprend des aspects culturels qui peuvent nourrir notre vie d'église, notre vie de foi. Le premier point est une foule immense, avec des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il y a déjà un premier point, on est chrétien en église et pas tout seul. D'autre part, la notion de bénédiction de tous les peuples est une notion clé dans le projet de Dieu pour l'humanité, pour son salut et sa rédemption. Elle est développée depuis l'Ancien Testament, notamment à partir de la promesse à Abraham en Genèse 12, verset 3, « Tous les peuples de la terre seront bénis par toi ». Et la question des nations louant Dieu est retrouvée notamment dans les psaumes et les prophètes. À ce moment de l'histoire que Jean voit pour nous, cette bénédiction prophétique est réalisée, elle est accomplie. En tant qu'aspect culturel, cette immensité est vécue par exemple lorsque l'église locale inclut diverses langues, et si cela correspond particulièrement à une réalité ecclésiologique actuelle, avec de nombreuses nations représentées dans des grandes villes par exemple, même ici à Darney, nous vivons des langues étrangères parfois très inattendues. D'autres points pour le culte, la proclamation, car nous aussi nous reconnaissons que le salut appartient à Dieu. La doxologie au verset 12, « À Dieu soit la louange », etc., qui est une manière, historiquement, d'attribuer à Dieu seul ses caractéristiques, au contraire du courant général qui les attribuait aux empereurs romains. Nous voulons affirmer au quotidien que Jésus est le seul Seigneur. Raconter comment le salut est vécu, les versets 14 et 15, c'est un aspect important du culte. Les personnes qui composent la foule ont été lavées et blanchies par le sang de l'agneau. Et alors, elles rendent un culte nuit et jour dans le temple. La communion avec Dieu, encore, s'ils rendent un culte nuit et jour dans le temple, ce n'est pas encore tout, car il est annoncé que Dieu et l'agneau les abritera sous sa tente. La notion de communion entre Dieu et sa création est décrite dans l'Apocalypse par la vie dans un jardin, dans une tente, dans le temple qui est aussi Jérusalem, la ville. Ici, on a bien le temple et la tente qui sont des espaces de communion. Et puis la reconnaissance de la souffrance est aussi un point culturel, y compris avec la vision finale où il n'y aura plus de souffrance. C'est un fondement pour l'espérance chrétienne que l'on peut vivre dans le temps de culte avec une vision précise du monde présent, y compris des souffrances humaines. Le dernier élément que je relève a trait à des éléments matériels pour la célébration du culte. Il s'agit des tuniques blanches et des branches de palmier. Ces éléments matériels racontent des histoires, ils portent des symboles. Ici, avec un écho à Ésaïe 1, verset 18, où les péchés rouges du peuple deviennent blancs. Et puis, je vais approfondir un peu sur les branches de palmier. Ces branches se rapportent à la fête des cabanes, ou la fête des tentes pour le peuple juif. Et plus tard, pour les chrétiens, à notre dimanche des rameaux, commémorant l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans Apocalypse 7, on parle de ces branches de palmier et on parle aussi d'eau vive, des sources d'eau de la vie. Or, cette association entre les palmiers et l'eau vive se retrouve à au moins deux autres endroits dans la Bible. Alors, quelques éléments sur l'institution de la fête des cabanes pour comprendre. C'est dans Lévitique 23, les versets 33 à 43. C'est une fête de 7 jours et le 8e jour en assemblée. L'indication, c'est quand vous récolterez les produits du pays, célébrez une fête en l'honneur de l'Éternel. Le premier et le huitième jour sont des jours de repos. Le premier jour, vous prendrez des fruits, des branches de palmier et des rameaux pour vous réjouir devant l'Éternel. À célébrer pendant 7 jours chaque année. C'est 7 jours pour habiter dans des tentes, pour se rappeler la libération, la sortie d'Égypte. Alors, un premier texte qui relie la fête des tentes et l'eau vive à Jérusalem, c'est Zacharie 14, 8. Un texte qui est prophétique à coloration apocalyptique aussi. Quelques versets de ce texte. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera une moitié vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Jérusalem sera élevée, on y habitera et il n'y aura plus de menace de destruction. Jérusalem sera en sécurité. Tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers et pour célébrer la fête des tentes. Donc c'est un texte qui nous dit que le jour de l'Éternel, de l'eau vive sortira de Jérusalem et tous les peuples monteront pour célébrer la fête des tentes. Et on retrouve la fête des tentes et l'eau vive dans les évangiles dans Jean 7, versets 37 à 39. Donc Jean 7, versets 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc c'est la fête des tentes, donc le septième jour. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Ces passages nous indiquent un lien fort entre la libération, la fête de reconnaissance et de souvenir, ce souvenir de l'action de Dieu, pour le louer. Un lien avec des marqueurs de la fête qui sont les branches de palmier, un lien avec l'eau vive qui est la vie que Dieu donne. Et l'eau vive, c'est aussi l'esprit que Dieu a donné à l'Église depuis 2000 ans. Quand nous vivons le culte, l'Église, dans la perspective de Apocalypse 7, le culte devient ainsi le lieu d'une communion qui, sur le plan spatial et temporel, fait se rejoindre respectivement le ciel et la terre et le présent et l'avenir. Quand nous attestons la première venue de Jésus dans la lignée des textes de l'Ancien Testament et quand nous demandons sa seconde venue dans la prière « Que ton règne vienne », cela nous donne à vivre une communion, une paix entre les humains et Dieu. En conclusion, l'eau vive, les sources des eaux de la vie, nous apprennent que vivre le culte en assemblée n'est pas banal. Au contraire, nous participons à la louange de Dieu, une louange qui appartient au monde à venir, au monde restauré par Dieu, pour le salut. Le texte de Apocalypse 7 décrit une réalité de la fin. La victoire finale est déjà acquise. Des personnes de tous les peuples, de toutes les familles, sont rachetées. Dieu vit au milieu de son peuple innombrable et l'agneau les guide vers l'eau vive. C'est la réalité de la fin. La communion entre les humains et Dieu est restaurée par le lavement, par le sang de l'agneau qui est un symbole de vie, pour la louange et pour la gloire de Dieu. Comme d'autres passages de l'Apocalypse, ce passage nous montre que la communion avec Dieu peut être vécue maintenant, ici, à travers le culte et la liturgie, dans le sens où, en célébrant les louanges de notre Seigneur, nous nous joignons aux anges qui louent Dieu autour de son trône et à toutes les familles de tous les peuples. Je pense que Dieu nous offre cela pour nourrir notre espérance. Alors que cela puisse nous encourager dans la semaine qui vient à vivre notre espérance. Amen. Amen.